8h. Et le journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Un chèque ou une baisse des taxes contre la hausse des prix du carburant? La décision du gouvernement se fait toujours attendre. Il faut dire que chacune des solutions a son revers. Celle du chèque, c'est de passer à côté d'une partie des Français qu'on va entendre dans un instant. Et au rayon des augmentations, faudra-t-il aussi rallonger les frais pour payer sa mutuelle l'an prochain? Certaines complémentaires annoncent déjà des hausses de tarifs qui font hurler Olivier Véran, alors que la crise du Covid leur a permis de faire de grosses économies. Partir plus tôt que les autres, Emmanuel Macron, pressé par ses troupes de se déclarer candidat dès le mois de décembre, ce qu'aucun président avant lui n'a fait aussi tôt avant une présidentielle. Lui ne l'a pas fait du tout. Votre invité Nicolas n'a pas été candidat à sa réélection, ce qui ne l'empêche pas d'avoir son avis bien tranché sur les prétendants au poste.
Oui, on peut le lire dans son tout dernier livre « Affronté » aux éditions Stock. Nous recevons tout à l'heure l'ancien président de la République, François Hollande, à notre micro avec Léa et vos questions au standard 01 45 24 7000.
Dans ce journal aussi, qu'est devenu Mathieu Valbuena depuis l'affaire de la sextape jugée aujourd'hui à Paris avec Karim Benzema comme tête d'affiche sur le banc des prévenus. Et puis le pouvoir de l'argent, selon Balzac, Xavier Giannoli adapte les illusions perdues au cinéma cette semaine. Mise en scène spectaculaire, Corinne Pellissier nous conseille vivement d'y aller.
France Inter.
Faire des chèques pour aider ceux qui en ont le plus besoin, mais comment être sûr de n'oublier personne? Ou bien baisser les taxes pour tout le monde, mais l'État va perdre des milliards. Face à la hausse des prix du carburant, le gouvernement hésite encore. Il a promis de trancher avant la fin de la semaine. Mais si c'est l'option du chèque qui est retenue, il y aura forcément des déçus, comme ces automobilistes que Théophile Vareille a rencontrés dans une station-service de la périphérie de Clermont-Ferrand.
Déjà le deuxième plein du mois pour Colette, retraitée.
C'est plus de 80 euros, je crois, mon plein. J'en fais bien, peut-être bien trois pleins quand même dans le mois. Hein. Mettez 80 euros, 3 fois 24, 250 euros d'essence. Hein. Sur 1000 euros de retraite, oui. Si c'est en fin de mois, c'est du luxe, oui. Bientôt, on ne va plus y arriver, hein, c'est sûr, même. Hein.
Sur le siège passager, Catherine, son amie, elle aussi retraitée, voudrait bien un chèque carburant, mais elle a peur de passer à travers les mailles du filet.
Un chèque carburant, ça va être pour les gens qui travaillent. Les gens comme nous, on n'aura droit à rien. Les retraités, ils n'ont jamais droit à rien, c'est le problème.
Anne, elle, travaille, mais pourtant, elle partage cette crainte. Secrétaire, mère de famille, elle habite à 15 km de ses bureaux, à Clermont.
Je prends souvent la voiture, tous les jours, pour emmener les enfants à l'école, pour aller au travail, pour aller faire les courses, pour tout faire. Sur le fond, bah oui, les aides, c'est toujours bien. Il y a toujours des conditions. Ce qui nous concerne, on est toujours légèrement au-dessus. Donc on fait partie de la classe moyenne, on n'a pas souvent les aides.
Ses revenus, son emploi ou son kilométrage pourraient être des critères pour le chèque carburant. C'est ce que dénonce l'association de consommateurs UFC Que Choisir, son président dans le Puy-de-Dôme, Daniel Bidot.
C'est en fait une aide discriminante parce que l'ensemble de la population a besoin d'une aide pour des consommateurs qui se déplacent pour leur travail, qui se déplacent aussi pour s'alimenter.
Plutôt qu'un chèque carburant, l'UFC Que Choisir réclame une baisse de la TVA.
Reportage France Bleu, pays d'Auvergne, avant d'être fixé sur la décision du gouvernement. Et après les carburants, le gaz, l'électricité, l'alimentation, va-t-il aussi falloir payer plus pour assurer sa santé? Certaines mutuelles l'ont annoncé. Elles veulent augmenter leurs tarifs en 2022. Impensable pour Olivier Véran. Le ministre de la Santé est en colère. Il leur a écrit cette semaine pour les appeler à la modération et pour cause, Véronique Julia.
Report de soins, d'intervention chirurgicale, les mutuelles ont fait des économies durant le Covid. On parle de près de 3 milliards. En contrepartie, elles ont dû s'acquitter d'une taxe Covid d'1,5 milliard. Elles doivent aussi rattraper aujourd'hui les soins qui n'ont pas pu se faire, ce qui leur coûte de l'argent. Il n'empêche, elles ont encore de la marge. Alors quand il entend certaines d'entre elles annoncer des hausses de tarifs pour l'an prochain au moins égales à l'inflation, voire plus, le ministère de la Santé voit rouge. Il a consenti à ne pas les taxer davantage en 2022, mais en retour, Olivier Véran espère, dit-il, la modération. Les hausses seraient injustifiées et même incomprises, écrit-il dans son courrier. Ce nouveau bras de fer arrive à un moment où les complémentaires sont déjà dans le collimateur de l'exécutif. Il n'avait déjà pas apprécié que certaines d'entre elles répercutent la réforme du reste à charge zéro sur leurs tarifs pour 2020. Le torchon brûle à tel point qu'une réflexion est dans l'air depuis quelques mois. Pourquoi pas fusionner assurance maladie et complémentaire pour créer une grande sécu? Ça éviterait notamment tous les frais de gestion liés à la coexistence de quelques 400 complémentaires santé. La Cour des comptes elle-même estime le système actuel certes protecteur, mais je cite, coûteux et inégalitaire.
Le budget de la sécu au programme des députés de l'Assemblée à partir de ce soir ou demain, mais pour l'instant c'est le pass sanitaire qui les occupe. Le gouvernement veut pouvoir y recourir si nécessaire jusqu'au 30 31 juillet 2022. D'ici là, un allègement du pass sera bien discuté mi-novembre, a promis Olivier Véran.
Il est 8h05 et si Emmanuel Macron entrait en campagne plus tôt que prévu?
Et s'il se déclarait candidat avant Noël dans son camp, certains le poussent à changer de stratégie, Simon Le Baron, par rapport à tous ses prédécesseurs, candidats à leur réélection, qui sont partis le plus tard possible.
François Mitterrand ne s'était laissé que 33 jours entre sa déclaration de candidature et le premier tour en 88.
Êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République ?
Oui.
Giscard, 55 jours en 81. Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, moins de 70 jours.
Oui, je suis candidat.
Emmanuel Macron, s'il se lançait avant Noël, partirait pour plus de 110 jours de campagne. Une durée exceptionnellement longue, mais qui aurait au moins trois avantages, explique un ministre. Surprendre les Français, se distinguer de ses prédécesseurs et occuper les repas de fête avec autre chose que Zemmour. Et puis, ajoute un conseiller, on arrêterait enfin avec cette hypocrisie du président dont tout le monde sait qu'il sera candidat. Les Républicains auront leur champion le 4 décembre, Éric Zemmour devrait se déclarer courant novembre, Emmanuel Macron choisira-t-il d'entrer très vite dans la mêlée ? La politique, c'est comme la boxe. Quand ça tape, il ne faut jamais rester immobile dans un coin, avertit un proche. Alors, campagne fleuve, campagne éclair, dans le premier cercle du président, on jure que le débat n'est pas arrivé jusqu'à l'Élysée. Si Emmanuel Macron choisissait la stratégie disruptive, comme on dit chez les marcheurs, il ne faudrait surtout pas gâcher l'effet de surprise.
Simon Le Baron, chez eux, c'est l'effet libératoire du Brexit qui retombe au Royaume-Uni où la sortie de l'Europe est effective. Depuis janvier, les deux tiers des Britanniques trouvent que le Brexit se passe mal. Et de fait, entre pénurie et manque de main-d'œuvre lié au Covid, mais aggravé par le nouveau statut du pays, l'heure est au regret pour certains. Richard Place s'est rendu dans un bastion de Brexiteurs à Ebbw-Vale, dans le Pays de Galles. Il y a 5 ans, 62% de ses habitants voulaient sortir de l'Europe.
Philippe Edwards donne rendez-vous sous une grande horloge. Puis il traverse le marché qu'il connaît par cœur, il le dirige, lui qui est né et qui a grandi dans cette ville de 18 000 habitants. À l'autre bout de la rue, une statue de métal, un dragon cette fois. Les deux œuvres ont été largement financées par l'Europe à l'époque, plusieurs dizaines de milliers d'euros à chaque fois.
Aucune industrie n'a été amenée ici, aucun emploi, que des trucs comme ça. Ça ne rapporte rien aux gens. C'est peut-être joli, mais ça ne donne pas de boulot.
Cet ancien bastion sidérurgique affiche un taux de chômage qui avoisine les 40%, et le Brexit n'a rien réglé.
J'ai voté pour quitter l'Europe. Si je devais voter à nouveau, ce serait sans doute pour rester. Évidemment, j'ai voté en croyant les promesses. Mais maintenant, la crise des poids lourds avec les chauffeurs qui manquent. Il faut dégager ce gouvernement et recommencer.
Des investissements européens, cette commune en a bénéficié comme aucune autre dans le pays. Des dizaines de millions d'euros. Mais le Brexit l'a emporté au grand dam du boucher qui avait voté contre et qui voit les conséquences concrètes dans sa petite boutique.
Il y a moins d'achats dans mon commerce. Certains de nos produits viennent d'Europe. Alors évidemment, les prix ont augmenté pour les importer. C'est pour ça que les tarifs augmentent pour mes clients.
Ici, on avait le sentiment d'être loin, très loin de Bruxelles. Ces derniers temps, on s'éloigne aussi de Londres. À Ebbw-Vale, Richard Place, France Inter.
Richard Place au Pays de Galles, à l'étranger toujours. Encore une démonstration de force de la Corée du Nord hier. Elle affirme avoir cette fois lancé un missile balistique depuis un sous-marin, ce qui lui permettrait de frapper même si ses bases militaires sont neutralisées, en sachant que le pays est doté de l'arme nucléaire. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir en urgence aujourd'hui. Elle travaille contre le climat et elle le sait depuis les années 70. La firme pétrolière Total qui a absorbé Elf a tout fait pour minimiser son rôle dans le changement climatique, en commençant par nier le phénomène, puis en faisant tout pour retarder les politiques de réduction des gaz à effet de serre. Sandy Dauphin, c'est la conclusion d'une enquête publiée aujourd'hui par des historiens français et américains.
Les auteurs ont décortiqué un demi-siècle d'archives au siège de la compagnie Total et mené des entretiens avec d'anciens cadres. D'après l'historien Christophe Bonneuil, directeur de recherche au CNRS et co-auteur de cette étude, la multinationale qui a fusionné avec Elf en 1999 était au courant de la contribution des énergies fossiles sur le réchauffement climatique dès les années 70.
Dès 1971, il y a un article sur le réchauffement climatique qui est relativement alarmant dans le magazine de Total. Et dès 1985, dans le rapport annuel environnement de ELF, on trouve l'idée que le changement climatique va être le problème du 21e siècle et que l'industrie pétrolière doit se préparer à se défendre.
Mais d'après l'article, Total a continué à semer le doute sur la légitimité des scientifiques jusqu'au début des années 90.
En 1992, Total, dans sa revue interne, dit « Il n'existe aucune certitude sur l'impact des activités humaines, parmi lesquelles la consommation d'énergie fossile. » Un discours que les historiens américains ont qualifié de « fabrique du doute ».
À partir de 2006, les auteurs de l'article notent un changement de stratégie. Total reconnaît publiquement les rapports du GIEC, finance des initiatives pour verdir son image, mais continue d'investir des dizaines de milliards de dollars dans la production pétrolière.
Sandy Dauphin, avis de tempête sur le Finistère, la Manche et le Morbihan. Le vent souffle déjà ce matin, mais il va forcir avec des rafales de 110 km/h attendues dans la soirée. Les trois départements sont en vigilance orange. Les terroristes vus par les otages du Bataclan au procès des attentats du 13 novembre 2015, les témoins d'hier, les ont donc vus de très près, retenus pendant plus de deux heures dans un couloir du bâtiment. Récit d'audience signé Charlotte Pierret.
Il y a le grand et le petit, celui aux yeux bleus habillé de blanc, l'autre au regard sombre, Ismaël Mostefaï et Foued Mohamed Agad. Il y a celui qui déverse sa diatribe djihadiste. Vous connaissez Daesh ? On est venu vous faire la même chose. Vous avez élu François Hollande. Aujourd'hui, c'est l'heure de la vengeance. Pendant ce temps-là, racontent les otages, l'autre terroriste, un pied sur la balustrade, tire dans la fosse. Il me donne l'impression qu'il se sent dans un jeu vidéo, raconte Grégory Alabar. Il s'amuse à tuer, insiste David. Mais ils auraient aussi pu être des amis. On avait plus ou moins le même âge. Il me rappeler les gens avec qui j'avais grandi. Si ce n'est qu'ils sont équipés de gilets explosifs que Caroline découvre lorsque l'un d'eux s'assied à côté d'elle, son coude en appui sur mon genou. Je voyais son pouce sur le détonateur. Je me concentrais pour ne surtout pas bouger les jambes et le déséquilibrer. Assez vite, les deux terroristes donnent l'impression aux otages qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, se disputent même un peu. L'un d'eux, se souvient Grégory, se met à sautiller sur place et lance « C'est bon, moi je suis chaud pour la faire durer cette prise d'otage ». Elle durera finalement 2h30 avant l'assaut de la BRI.
Charlotte Piret, les témoignages des survivants du Bataclan s'achèvent aujourd'hui. Ce sera ensuite le tour des proches des victimes décédées ce soir-là. Un homme en garde à vue à Marseille, soupçonné de menace de mort contre un couple d'enseignants à qui il aurait envoyé une photo de Samuel Paty. Menace qui serait liée à un différend personnel entre le couple et cet artisan de 34 ans qui n'aurait donc rien à voir avec l'enseignement.
Il est 8h12, une vidéo intime au centre des débats du tribunal correctionnel de Paris. Aujourd'hui.
C'est l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, pour laquelle son ancien coéquipier en équipe de France de foot, Karim Benzema, comparaît avec quatre autres personnes pour avoir tenté de faire chanter le joueur. Alors, on a beaucoup parlé des conséquences de cette affaire pour Benzema, écarté de la sélection nationale pendant 5 ans avant d'être rappelé pour le dernier Euro. Mais qu'est devenue la victime de cette histoire, Mathieu Valbuena? Eh bien, sa vie a changé depuis 2015, et pas pour le mieux, Jean-Pierre Blimeau.
Un fait, Mathieu Valbuena n'a plus joué en équipe de France depuis octobre 2015. Le sélectionneur Didier Deschamps, à l'époque, lui aurait dit qu'il ne le prenait pas pour le protéger. Le terrain toujours, il y a des blessures qui ne viennent pas par hasard, confie aussi Mathieu Valbuena 4 ans plus tard, lorsqu'il évoque sa blessure de l'hiver 2015, alors qu'il joue à Lyon. L'OL qu'il quitte en 2017 pour le club turc de Fenerbahçe, avant de rejoindre l'Olympiakos Le Pirée, comme un refuge, son deuxième OM comme il le qualifie. D'un point de vue personnel, Mathieu Valbuena relie aussi l'affaire à la séparation de son couple. Il ne pouvait plus sortir en famille sans qu'on ne lui en parle. Mathieu Valbuena, enfin partie civile, se pose clairement en victime dans ce procès et refuse d'endosser l'éviction de Karim Benzema, écarté des Bleus de 2015 jusqu'au printemps dernier. Son avocat se sent d'ailleurs obligé d'insister durant l'enquête. À aucun moment, dit-il, Mathieu Valbuena n'a voulu nuire au football français ou à l'équipe de France.
Jean-Pierre Blimeau, secoué mais victorieux, le PSG a battu Leipzig hier soir 3-2 en troisième journée de Ligue des Champions grâce à un doublé de Messi. Et un premier but d'Mbappé, un classique du Classico. Il n'y aura pas de supporters parisiens dimanche à Marseille pour suivre le match OM-PSG. Interdit de déplacement par la préfecture pour prévenir les débordements. Enfin, il avait compris tous les rouages de l'argent et du pouvoir. Il y a 200 ans, Balzac et sa comédie humaine dont sont tirées Illusions perdues. Adapté au cinéma ce mercredi, un film de Xavier Giannoli, du grand spectacle. Porté par Jeanne Balibar, Cécile de France, Gérard Depardieu, Vincent Lacoste, Xavier Dolan et Benjamin Voisin pour une plongée impitoyable dans l'univers de la presse. Réalisation magistrale qui devrait séduire autant le grand public que les puristes, nous dit Corinne Pellissier.
Notre ligne éditoriale sera simple. Le journal tiendra pour vrai tout ce qui est probable.
Balzac, dans sa comédie humaine, on avait fait le constat avant tout le monde. La littérature, la presse, les réputations, les sentiments, tout s'achète et tout se vend. Analyse cynique et pertinente à travers le parcours au 19e d'un provincial ambitieux monté à Paris pour y rencontrer le succès. Lucien de Rubempré, incarné dans le film par Benjamin Voisin, qui nous offre ici une plongée cruelle et vertigineuse dans les milieux de la presse, de l'édition et du théâtre. En respectant l'ambiance, les décors et sans jamais trahir la pensée de Balzac, Xavier Giannoli n'a pas eu besoin d'adapter à la lettre les 900 et quelques pages qui composent les trois volumes des Illusions perdues pour réussir son adaptation. Elle devrait séduire autant le grand public que les puristes. Mission accomplie auprès du gardien du temple de la maison de Balzac à Passy, Yves Gagneux.
Balzac, ce n'est pas quelqu'un qui fait des récits, c'est quelqu'un qui réfléchit. Il a vraiment compris tous ces mécanismes de l'argent, comment on peut acheter une opinion, créer des réputations et broyer les talents.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire...
Avec sa mise en scène spectaculaire et ambitieuse, Giannoli signe aujourd'hui l'un des films les plus appétissants de la rentrée. Une fresque impitoyable aux accents très modernes qui évoque en miroir la tyrannie du buzz et la domination des réseaux sociaux.
Ça donne envie.
Bah très, Illusions perdues. En plus, c'est un film France Inter.
Merci Florence Paracuelos.
Parce qu'on est dans tous les bons coups.
Tous les bons coups. Merci Florence.